À fond.
Principe actif, 102.4 FM.
de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les très donc petits bourgeois de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres?
Non.
Que diable les différences de galère?
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Qui avait dit le poil l'autre promenade?
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Ah, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de mai de Scène de vie, vie de scène, une émission qui prendra à nouveau le temps de vous parler de spectacles vivants. Cette émission vous est proposée en coproduction entre Le Tangramme et Principe Actif, et pour moi, la joie de retrouver Caro et Nat. Bonjour.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Au sommaire de cette émission, nous parlerons Anthropocène.
Oui, nous aurons la chance d'avoir notre rendez-vous annuel du mois de mai pour accueillir Valérie Baran, donc la directrice du Tangramme, pour nous parler de la prochaine édition du festival Anthropocène.
Et puis ce festival méritait bien l'émission au complet, donc nous n'aurons pas de deuxième invité ce mois-ci, mais vous verrez bien qu'à la fin de cette émission, il vous en manquera encore plein sur les Anthropocènes. Nous ferons un petit tour non exhaustif de l'agenda. Nous irons en fin d'émission découvrir la sélection cinéma de Nathalie, mais ça on vous en dit pas plus. Mais tout de suite, pour commencer cette émission, une autre de nos traditions, le son d'ambiance.
Alors JC, dans quelle foule la radio a-t-elle laissé traîner le micro cette fois-ci ?
Alors cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai laissé traîner, ce sont des sons récupérés des syndicats. En fait, c'était à l'occasion de la manif du 1er mai 2025. Et comme aujourd'hui nous sommes le 1er de mai 2026, et je tiens à préciser que cette émission est enregistrée le mercredi 29, car le 1er mai, eh bien nous ne travaillerons pas, nous irons manifester, jardiner, barbecuter, en tout cas, nous ne travaillerons pas. Et donc ça, c'était un son de cortège. Vous pouvez rejoindre tous les cortèges proches de chez vous. Il y en a à peu près partout. Et c'était ce petit clin d'œil au 1er mai.
Et avec notre joli petit brin de muguet accroché pour la manif.
Et ben voilà, c'est la tradition du 1er mai. Voilà, une pensée à tous ceux qui auront défilé, qui défileront ou qui sont en train de défiler sur ce 1er mai. Ça nous amène à la toute première pause musicale et nous passerons sur le tout premier choix de Nathalie.
Oui, j'avais envie de vous faire partager un des derniers morceaux du groupe anglais Salt, qui vient de sortir son dernier album. Salt, c'est un groupe britannique soul pop avec une chanteuse extraordinaire. Voilà, donc le titre choisi est Good Things Will Come After Pressure.
Love and war.
Le groupe Salt avec leur titre Good Thing Will Come After Pressure.
Et nous allons faire, comme nous le disions, un petit tour du côté des Anthropocènes, Caro.
Absolument, oui. Et cette année, donc, c'est la 5e édition, hein, déjà. Et moi, j'avais une première question donc, pour vous, Valérie Baran, par rapport au titre de l'édition de cette année, Domestique ou sauvage, point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet intitulé un peu énigmatique?
Oui, alors énigmatique et en même temps... il s'est produit en fait pour être vous expliquer d'où vient ce choix de thématique pour cette 5e édition. C'est que on s'intéresse évidemment au rapport de l'homme à son environnement, à la biodiversité végétale, animale, et en fait on oublie que l'on cohabite essentiellement avec des espèces végétales et animales qui sont domestiquées. Alors pour les animaux par exemple, il faut savoir que seulement 3% des mammifères qui sont présents sur le globe terrestre sont des mammifères sauvages. Tous les autres mammifères sur le globe à ce jour sont ou des animaux d'élevage, donc domestiqués, ou des animaux domestiques de compagnie, ou des humains. Et que s'est-il passé en fait? C'est ça que je trouvais absolument passionnant à aborder, c'est que il y a environ 15 000 ans, eh bien, il s'est passé un phénomène absolument dingue. L'homme et le loup se sont mutuellement domestiqués, l'homme et le loup gris. Et ce n'est pas un événement qui a été, on va dire, volontaire de la part de l'homme. Il y a eu un apprivoisement respectif, il y a une domestication. Et de cette première domestication, toute première domestication dans l'histoire de l'humanité, eh bien, va découler très vite la domestication d'un certain nombre d'autres animaux, entre autres des ongulés, mais pas que, et ensuite, quelques millénaires plus tard, la domestication des végétaux. Et donc, pour faire un tout petit point d'histoire, mais c'est très important, c'est une absolue révolution dans l'histoire de l'humain. On rentre dans le néolithique, on rentre dans la culture, l'élevage, et donc on va changer notre alimentation, ça va physiologiquement nous changer considérablement, ça va nous doter d'autres capacités, mais ça va nous en enlever certaines, et on va rentrer dans un rapport à l'environnement qui est évidemment très différent, puisque la mainmise de l'homme, dès lors, va être de plus en plus importante, et sur les espèces, par la domestication et sur les espaces, parce que pour élever, pour cultiver, eh bien on déforeste et on va changer les espaces et les espèces et on va se changer soi-même. Et donc s'agissant d'Anthropocène, de cette terre où la présence de l'homme devient tellement déterminante qu'elle modifie les conditions d'habitabilité de la planète pour nous, mais aussi pour un certain nombre d'autres vivants, on va dire, peut-être qu'on pourrait considérer, mais c'est très personnel, que c'est peut-être le début de cet Anthropocène. Donc il me semblait important d'aborder cette thématique-là, sachant qu'évidemment, elle s'ouvre sur beaucoup d'autres thématiques, donc elle ouvre sur les questions aujourd'hui d'élevage, d'agriculture, donc avec certaines modalités d'élevage et d'agriculture qui vont de l'agropastoralisme, des modèles très, on va dire, respectueux du bien-être des animaux, et jusqu'à l'élevage industriel, dont on sait que ça n'est évidemment pas du tout le cas, hein, mais de la culture plus paysanne à l'agriculture intensive, qui, elle aussi, on le sait aujourd'hui, provoque des problèmes de santé majeurs, hein. On parle beaucoup du cadmium ces derniers temps, mais bon, c'est évidemment lié à ces pratiques et à ces usages phytosanitaires. Et puis, on va parler du monde paysan, on va parler également d'autres choses, parce que l'élevage, l'exploitation, la surexploitation, le changement du paysage, c'est une chose, mais il y a aussi quand même quelque chose de formidable qui se crée, c'est qu'en se rapprochant des animaux, on va créer un lien absolument incroyable, on va trouver une relation absolument fantastique à ces animaux, et on va trouver aussi presque des relations thérapeutiques à ces animaux. Et donc on va parler d'animaux de compagnie, on va parler des liens incroyables, empathiques qu'on a avec ces animaux qui partagent nos existences. Et puis on va parler du sauvage, évidemment, de ce qui est resté sauvage.
Alors justement, dans ce que vous dites, moi j'entends un petit peu dans cette domestication un acte inconscient qui est le fruit de l'interaction entre l'humain qui prend de plus en plus de place sur la planète et puis le reste du monde. Ça m'amène à me dire, mais est-ce que finalement ce sauvage est réduit en peau de chagrin et est amené à disparaître dans ce que vous dites ?
Alors, il n'est pas amené à disparaître, heureusement, et on en parlera, en l'occurrence, avec l'avenue de deux grands spécialistes de ce qu'on appelle le ré-ensauvagement, qui sont Gilbert Cochet et Brigitte Kremer-Cochet, et puis qui sera suivi d'un film de David Allen qui s'appelle Wilding, et que je vous conseille vivement de voir, parce que c'est un film absolument édifiant et qui vous redonne foi en l'avenir, et par ailleurs, il a eu 5 Emmy Awards, donc c'est un très très grand film. J'en profite, si vous voulez bien, j'y sais, pour redire un petit mot sur le fait qu'évidemment le festival, c'est un moment où art et science se croisent, s'auto-alimentent, viennent s'éclairer, mais que c'est aussi éclairé par une grande partie de films documentaires, quelques films de fiction, du cinéma d'animation pour les enfants, et donc au-delà de ces conférences, et puis aussi des ateliers de pratique pour aussi pratiquer, et donc mettre en émoi ces sens. J'en profite aussi pour le dire, c'est très important, c'est que l'ensemble de ces conférences où on va accueillir des grands scientifiques vraiment de premier rang, cet ensemble de conférences est gratuit, donc on y accède absolument librement, sur réservation, et que c'est le cas également de l'ensemble des films documentaires qui sont présentés dans nos locaux. Ça n'est pas le cas quand vous êtes, donc on travaille également en cinéma, avec le cinéma Pathé, donc là effectivement il y a un tarif très abordable, mais c'est payant, mais l'ensemble des films documentaires et des conférences sont gratuites, il faut réserver en revanche. Voilà.
L'objet étant d'avoir plusieurs types de pratiques, en fait, ouais. C'est là le spectacle, ouais. Le cinéma, le documentaire, la ouais. conférence, avec les enfants, sans les enfants, les ateliers. Le but du jeu, c'est de toucher finalement toutes les manipulations presque, et du cerveau et des mains presque, sur la thématique.
Oui, c'est cela. Alors, puis pardonnez-moi, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, je vais y revenir dans une seconde.
C'est pas grave, elle décore nos questions, vous savez bien.
Mais non, pas du tout. Non, c'est extrêmement important, je vais y revenir. Mais oui, peut-être pour répondre à celle-ci dans un premier temps. Oui, absolument. C'est-à-dire que la science, elle amène la connaissance, le théâtre, il amène l'émotion. Je ne vais pas paraphraser Malraux, je ne saurais pas le citer comme ça, mais il disait, l'université est là pour nous apprendre Racine, mais l'acteur qui joue Racine, il est là pour nous apprendre à l'aimer. mais c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, ce que nous on produit avec le spectacle vivant, et c'est de l'émotion. Et l'émotion est importante pour bien aussi s'approprier ces questions qui sont des questions aujourd'hui essentielles, cruciales, vitales pour l'homme. Hein. On parle de la de préserver l'habitabilité de la planète. Pour nous, pour un certain nombre d'autres espèces, c'est un peu foutu, on va pas se mentir, mais il y en a quelques-unes qui, j'espère, vont survivre, mais en tout cas aussi pour nous en premier lieu. Donc l'ensemble, c'est deux, c'est la connaissance d'une part et l'amour ou l'émotion d'autre part, on vient aussi l'enrichir par d'autres regards artistiques et qui sont eux aussi à la frontière des deux. Le travail des documentaristes aujourd'hui merveilleux, c'est-à-dire c'est à la fois de grands cinéastes parce qu'ils font des images absolument splendides, donc vous êtes aussi dans le choc esthétique, mais vous êtes aussi dans l'apprentissage et la connaissance. Et l'expérientiel, c'est parfois capacité à faire un petit atelier sur le territoire, de comprendre aussi combien tout ça résonne sur notre territoire, que c'est quelque chose de, c'est pas uniquement des grands enjeux sur les forêts primaires qui sont sur d'autres continents ou sur d'autres pays, mais que c'est ça nous concerne aussi tout à fait localement. Alors pour répondre sur la question du sauvage, vous avez complètement raison, c'est-à-dire que à la fois à partir du moment où on rentre dans l'ère néolithique, donc avec cette révolution, l'homme va se mettre à prospérer après une période un peu compliquée où il faut qu'il s'adapte quand même, où il risque même, et je vous invite à voir un film qui s'appelle La cuisine du néolithique, et vous verrez que le changement d'alimentation, très soudain, hein, quand on arrête d'être chasseur-cueilleur et qu'on devient cultivateur, horticulteur, éleveur, eh bien, il y a quand même quelques problèmes physiologiques chez l'homme. Mais une fois qu'on dépasse cette phase et qu'on arrive à s'adapter, eh bien, l'homme se met à prospérer. Sinon, on restera un groupe de mammifères parmi d'autres, de façon tout à fait raisonnable sur la planète, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une population qui est assez colossale, et l'homme représente, je vous disais, une partie très, très, très conséquente des mammifères sur la planète. Alors, est-ce que le sauvage est amené à disparaître ? Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui œuvrent pour que ça ne se passe pas. Il y a des gens qui mènent des expériences pour lutter contre cette transformation des espaces et des espèces, pour revenir vers des espèces peut-être plus proches, en tout cas, de l'espèce sauvage, même si elles ont disparu pour la plupart. Il n'y a plus, par exemple, le roc qui était l'origine, l'espèce originaire de tous les bœufs musqués, tout ça. Donc, ça, il n'existe plus, mais on peut aller vers des espèces plus rustiques, et qui vont plus vers le sauvage. Et puis il y a des expériences de réensauvagement, je vous le disais, absolument incroyables, et qui sont merveilleuses au sens où on se rend compte. Alors je vais parler du film Wilding dont je vous disais un mot il y a quelques instants. C'est une expérience qui a été menée dans le domaine de Knepp, dans le Sussex, en Grande-Bretagne, et qui a démarré très précisément en 2001. Donc, vous voyez, c'était hier. Hein. Enfin, à l'échelle du temps, c'est vraiment très, très, très récent. Et donc, c'est un couple qui faisait complètement faillite avec l'agriculture conventionnelle et qui avait dû vendre son cheptel laitier, qui avait dû vendre tous ses appareils, tous ses outils de culture. Enfin, vous voyez, les grosses moissonneuses et tout ça. S'est dit, mais finalement, si... Alors, il jouissait d'un domaine assez large, donc l'expérience est très probante parce que ça se déploie sur